Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou Attitude. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on a un projet en tête et qu'autour de nous, cette envie, cette idée ne rallie pas les suffrages, plusieurs options s'offrent à nous. Renoncer, négocier, s'imposer. Certains d'entre nous peuvent même abandonner avant même d'avoir présenté leur projet parce qu'ils ou elles ont peur de s'entendre dire non. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons poser la question aux jeunes auditeurs. Que se passe-t-il lorsque l'entourage n'approuve pas une relation amicale ou amoureuse, une orientation dans les études, un choix de vie ? Tenir tête ou baisser les armes. Et lorsque l'on décide de persévérer, de s'affirmer, eh bien, peut-il y avoir des conseils qui vont permettre non seulement de mener à bien cette ambition, mais aussi de conserver le précieux soutien de ses proches. Concilier à la fois ses envies, être soi-même sans renoncer aux autres. Existe-t-il des stratégies ou des méthodes pour convaincre, des arguments qui permettent de se faire entendre? Et comment expliquer que certains parents souhaitent imposer leur vue sans tenir compte du choix de leurs enfants? Dans quel cas est-il recommandé de faire intervenir une personne extérieure? On attend bien sûr vos témoignages et vos questions au 33 84 22 75 et sur la page Facebook de l'émission. Vous avez la parole dans Priorité Santé. Famille, amour, amitié, savoir s'affirmer, savoir s'imposer avec dans nos studios deux invités. Coro Camara, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute en Seine-Saint-Denis et vous exercez notamment au sein de l'association SAMS qui prend en charge des bénéficiaires des minima sociaux. Et nous avons le plaisir de vous retrouver, Adja Idrissaba, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes étudiante, membre du bureau d'Equipop et du réseau des jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone.
Priorité santé sur RFI.
Quand on parle des situations lors desquelles un jeune, une jeune doit défendre son point de vue, on peut imaginer un débat avec des arguments les uns face aux autres, des fois parfois même le ton qui peut monter un petit peu, mais parfois la discussion ne s'engage même pas. Et en amorce, sans prélude de cette émission, il y a cette question Facebook d'Aïcha, ou plutôt ce témoignage. Aïcha a 26 ans, elle habite au Sénégal et elle dit qu'en couple ou avec des amis, il lui arrive d'avoir peur de dire ses pensées par peur que les autres se mettent en colère. En quelque sorte, elle tue ses projets dans l'œuf parce qu'elle n'ose même pas en parler. Elle aimerait avoir des idées pour convaincre et elle a peur de ne pas trouver les mots. Bref, d'une certaine manière, elle ne va même pas oser soumettre son idée à celles ou ceux qui sont en position de donner leur accord. Coro Camara, c'est d'abord donc s'imposer, déjà exprimer sa volonté.
C'est ça, tout à fait. S'imposer, ça ne veut pas dire être mal éduqué, être bizarre ou mal poli. Au contraire, s'imposer, c'est tout simplement exprimer ses ressentis émotionnels. Voilà, ses pensées, ses idées. Et donc du coup, c'est tout à fait normal. L'humain, il est constitué d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc à ce moment-là, si il décide de se taire, il refoule ses émotions, il les avale, il intériorise. Donc, à l'issue de ça, si il ne s'exprime pas, cela va entraîner en fait des signes psychologiques, comme du stress, de la dépression ou de l'anxiété.
Parce que c'est retenu ?
C'est trop retenu, c'est ça. Et ça va faire comme une cocotte minute, ça va rester à l'intérieur, et puis un jour ou l'autre, après, ça va après sortir en colère. L'émotion va commencer à parler. Ou sinon, en signes physiques, comme des maux de tête, des maux de ventre ou de l'eczéma, du psoriasis, des problèmes de peau.
Ça veut dire que certaines maladies peuvent se cacher derrière trop de choses retenues, mais quand même, cette manière de faire part de ses projets, ça va forcément dépendre du contexte, de la famille, de la culture, Coro Camara. Évidemment, on ne parle pas avec la même liberté dans une famille quand on est à Copenhague, à Paris ou à Corogo. Ce n'est pas la même chose, on ne parle pas de la même manière. Il y a la place du respect. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va entendre au cours de cette émission, cette notion de respect, on peut dire qu'il est parfois dévoyé en demande d'obéissance absolue.
C'est ça. Donc tout dépend de l'influence sociale, culturelle ou familiale dans lequel on est né, dans lequel on a grandi. Donc soit ces modèles parentaux ou ces schémas religieux, etc., ou social, soit ils vont nous encourager à nous imposer, ou soit sinon ils vont nous inhiber, nous écraser. Et donc du coup, on ne va pas pouvoir s'exprimer librement.
On arrive dans le conflit générationnel, hein, parce que quand on est dans une famille, on va dire traditionnelle, et qu'on arrive avec plein de projets, plein de nouveautés, des fois, ça bloque.
C'est ça, ça peut bloquer, et puis ça peut rentrer en conflit. Et donc, du coup, il y aura un blocage après au niveau de la communication, on ne va plus s'entendre. Et donc, ben, on sera toujours avec nos doutes, nos questionnements, si on n'est pas encouragé justement par les parents ou la famille.
Alors, on va dire qu'il y a vraiment, à Idriss Aba, une dimension d'équilibre. Choisir sa route sans quitter, sans s'exclure complètement du cadre familial, parce qu'on n'a pas envie de faire le chemin tout seul. Mais en même temps, c'est toujours négocier, c'est toujours ménager les uns et les autres.
Oui, clairement, parce que le poids de la famille, c'est dans certaines contrées, c'est très important pour nous, les jeunes. Et le plus souvent, lorsque nous essayons de parler de nos projets à soit nos parents ou à notre entourage et que nous ressentons un blocus, des fois, il y a ce décalage que vous avez bien mentionné, mais ça amène un conflit, mais un conflit qui ne s'éteindra jamais. Parce que vous savez, il y a ces mots qui existent, la malédiction. Parce que souvent, lorsque tu refuses, par exemple, de suivre le projet que tes parents veulent que tu suives, et que tu as, toi, ton projet, et que tu tiens tête à tes parents, par exemple, tu essayes déjà de négocier, de parler, mais les parents, ils ont pas ça en tête. Ils ont en tête que, non, souvent, c'est nous qui connaissons le mieux ce qui est mieux pour mes enfants.
Quand vous dites la malédiction, ça veut dire que les parents imaginent que ça va apporter le malheur sur la famille?
Justement, parce que tout simplement, surtout quand tu es l'aîné, par exemple, de la famille, et que tu refuses, par exemple, ce qu'on t'impose, c'est que on imagine déjà que tous les autres frères, les petites sœurs, ils vont suivre en fait cet exemple-là. Et en même temps, il y a les malédictions qui se suivent, parce que souvent les parents, ils sont amenés à maudire leur enfant. Si tu n'acceptes pas, par exemple, de suivre le projet que je t'impose, c'est que tu vas finir mal ta vie. Tu vas jamais t'en sortir. Ton projet, il est nul, inutile. Et du coup, la confiance en soi que l'enfant il a, si déjà le premier socle sur lequel l'enfant doit se baser, c'est les parents, et que celui-ci, il est brisé. Je me demande comment est-ce que cet enfant peut avoir confiance en lui, et déjà, jusqu'à avoir confiance à parler à ses amis ou à ses proches. Parce que déjà, il se sent ridiculisé par ses propres parents. Donc ça, c'est un important point aujourd'hui que nous, les jeunes, on fait face à cela. C'est qu'on a peur des malédictions, on a peur des menaces
un bannissement, et en disant tu n'es plus mon fils.
Justement.
En fait, c'est une sorte de répudiation. Est-ce que certains ont l'impression que, quelle que soit leur idée, eh bien l'accueil, ce sera toujours, peut-être après ça changera, mais en tout cas, au début, les parents, ils vont toujours dire « Ah ben non, non, c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi ». Bref, il y a une méfiance, et puis finalement, il peut y avoir des négociations qui vont aller vers la confiance.
Justement, ça dépend des familles. Il y a certaines familles qui sont ouvertes à ça, mais il y a d'autres, malheureusement, qui sont... c'est-à-dire, dès la première discussion, même s'ils savent réellement ce que l'enfant est en train de dire et que c'est la meilleure idée, ils se disent non, parce que l'enfant a osé me tenir tête déjà dès le début, je ne vais pas lui laisser me convaincre par rapport à son projet. Donc, ils font un blocus total. Mais il y a une possibilité, par exemple, de regarder l'entourage. C'est-à-dire à côté des parents, lorsque, par exemple, il peut y avoir les tantes des parents ou les grands-parents qui peuvent... On peut aller les voir, les imams dans les quartiers, les personnes influentes qu'on peut utiliser pour venir dissuader justement l'idée des parents. Il y a ces possibilités-là, mais c'est très rare de voir des parents vraiment qui acceptent le dialogue entre eux et les enfants, parce qu'ils trouvent cela comme un manque de respect. Un manque de respect de dialoguer avec son propre enfant, alors que c'est lui qui doit imposer l'idée que l'enfant doit suivre.
Et il y a aussi les questions de génération, on va dire année après année. Il peut y avoir des problèmes quand la famille vient d'Afrique, s'est installée en France, on n'a eu pas les mêmes copains, pas la même éducation, les choses changent quand même énormément d'une génération à l'autre. Les métiers changent, les relations changent, la communication change aussi, Koro Camara, et ça fait autant de couches successives d'incompréhension.
Oui, tout à fait, mais la communication, c'est la clé, c'est la base universelle pour essayer en fait d'échanger, de discuter, que ce soit en conflit ou sinon dans une bonne entente, il faut communiquer, c'est important. Mais c'est vrai que nos parents qui sont nés au pays, qui sont arrivés et ensuite après des enfants sont nés ici sur le territoire français, ils n'ont pas eu cette communication avec leurs propres parents. Donc du coup, c'est ça aussi. Il faut aussi que dans les familles, ça s'installe un peu plus.
Répéter des modèles, mais en même temps, de la part des parents, il peut y avoir une crainte, Koro Camara, de voir les enfants s'éloigner, vivre une autre vie, une autre culture, quelque chose finalement dans lequel la famille ne se reconnaît plus du tout.
C'est des questionnements que les parents se posent, bien sûr, ils sont perdus face à ça. Parce que c'est des parents, ils voient les enfants grandir, et comme elle disait aussi Adja, ils ont des modèles, voilà, tu vas devenir ça, tu seras ça. Mmh. Mais c'est vrai que l'enfant, lui, il a d'autres ambitions, d'autres envies, d'autres rêves, d'autres désirs. Et donc du coup, c'est vrai que là, après, ça peut s'installer après un conflit, mais il faut communiquer, et je suis d'accord avec Adja, on peut faire aussi appel à l'entourage, des réunions de famille, chez les Africains, en tout cas, ça se fait souvent. Et donc, les tantes, les oncles, qui peuvent aussi essayer de faire changer la manière de penser des parents et un peu plus communiquer aussi.
Et justement, vous, en consultation, Koro Camara, est-ce que vous êtes des fois appelé à, si jamais un jeune ou un moins jeune vient en disant « personne ne m'écoute », à dire à la famille ou à l'entourage, devenir vous-même médiatrice, écoutez, on va se réunir, on va essayer de voir les arguments des uns et des autres, peser le pour et le contre, pour essayer d'avancer ensemble.
Oui, alors moi, en tout cas, en tant que psychologue clinicienne, l'approche que j'apprécie le plus, c'est la psychologie interculturelle, l'ethnopsychiatrie, entre guillemets. Et donc, dans ces consultations, on fait appel à la famille et c'est ouvert à tous, grands-parents, parents, les oncles, les tantes, les enfants. Et c'est là qu'on nous pose vraiment le cœur du problème. Et puis, du coup, chacun a la parole. Chacun, en tout cas, peut interagir avec un médiateur, un interprète ou un traducteur. Et puis, du coup, on essaye vraiment de régler le souci familial.
Et des fois, il faut plusieurs essais avant que ça marche.
Ah oui. Oui, ça peut aller à 10 séances, les thérapies systémiques et familiales aussi, où il y a la famille aussi qui est réunie et où justement on traite le cœur du problème.
Alors, Adja Idrissaba, on a parlé généralement sans fixer véritablement de cadre. On va avoir les exemples concrets tout à l'heure avec les auditeurs en ligne et en direct. Est-ce que vous avez le sentiment personnel que quand ça bloque, ça concerne plus la vie sentimentale, l'orientation professionnelle, l'amitié, les voyages, ou c'est un petit peu un tout? On va dire, les parents qui bloquent, ils bloquent sur tout, et les parents qui bloquent sur rien, ils laissent tout ouvert.
C'est lorsque les jeunes, par exemple, ont envie de se décider par rapport à leur avenir ou par rapport à leur projet ou encore leur relation et tout, c'est vrai qu'à un moment donné, ils bloquent parce que des fois, les parents, c'est leur manière de mettre la pression sur les enfants, de les intimider, de dire que je te renie. Et donc, je te renie, je t'écoute pas, tu n'es plus mon enfant, quel que soit ton projet, je te suis pas là-dessus.
C'est quand même très radical comme réaction, non? Justement, c'est quelque chose de fréquent?
Oui, mais c'est hyper fréquent. En fait, c'est ce dont nous, on a peur. Donc, mon avis par rapport à cela, c'est qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils sont sur le regret, mais vous savez déjà, lorsqu'on est parent, on se dit oui, mon enfant, il est toujours mon bébé. C'est-à-dire qu'il grandit jamais devant moi, quel que soit l'âge qu'il a ou quelle que soit la maturité de son projet, le mien ou mon idée est toujours la meilleure pensée. Donc, à ce niveau-là, ils ont du mal à revenir avec leurs enfants et ils continuent à bloquer. Donc, il faut que l'enfant, si lui, il n'a pas envie de perdre cette relation avec ses parents, c'est lui qui fait des efforts pour revenir avec ses parents. C'est très rare de voir les parents eux-mêmes faire des efforts pour que le conflit soit réglé de façon à ce que les deux soient écoutés ou que qui est le dialogue en fait.
Le camp de la négociation, c'est chez les jeunes. On va avoir une illustration tout de suite. On part pour le Sénégal avec une première auditrice en ligne. C'est vous, Khadija. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Khadija, vous avez 20 ans. Aujourd'hui, vous vivez chez votre mère, c'est ça?
Exactement.
Alors comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette cohabitation?
Ah, c'est trop dur carrément. Surtout depuis que j'ai obtenu mon bac et tout et que je veux aller étudier à l'université, c'est presque devenu impossible de communiquer avec ma mère carrément.
Par exemple, elle intervient sur quel type de choses, sur quel choix?
Exactement, sur tout en fait.
Sur tout. Par exemple, quand vous vous habillez, elle fait des commentaires. Quand vous téléphonez, elle fait des commentaires. C'est sur quoi précisément?
Carrément, surtout quand je fais des appels vidéo avec mes amis garçons, elle me dit « arrête ça, c'est pas sûr, tes amis vont vendre tes photos et tout », c'est devenu insupportable en fait.
Et vous, parce que là je vais me mettre un peu dans la peau de la vieille génération vu mon âge, vous faites attention vous-même ces appels vidéo par exemple, ne pas être vulnérable, ne pas vous dénuder, tenir des propos qui pourraient pas être utilisés après contre vous, est-ce que vous avez conscience des risques?
Bien sûr, je suis comme... Quand je suis un peu grande, j'ai 20 ans et tout, et quand je me dis « Maman, je suis grande, laisse-moi faire ce que je veux », elle me dit « Non, tu seras toujours un enfant devant moi, donc je dois te conseiller le monde, et je sais pas, des trucs un peu bizarres en fait.
Et quand il y a des accords, comment ça se passe? C'est plutôt dans le calme ou vous criez dessus, entre guillemets?
Crier ici au Sénégal, on n'oserait même pas devant sa mère ou son père.
C'est irrespectueux, ça ne se fait pas. C'est pas comme en région parisienne, je peux vous le dire. Alors, est-ce qu'une fois que le conflit est un petit peu dépassé, vous réussissez à en parler avec votre maman, on va dire, à tête reposée?
Pas du tout. Elle, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Mmh. Par exemple, quand j'ai obtenu mon bac, je voulais aller à Dakar étudier et tout. Mmh. Et elle s'est arrangée pour que je ne reste pas à l'université et que chaque fois que j'ai fini les cours, je rentre chez mon oncle.
Mmh. Est-ce qu'elle agit de la même façon avec vos frères et sœurs, votre maman?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Mes autres frères, elles ne vivent pas avec ma mère, elles vivent avec mon père, donc c'est un peu différent.
Ah oui, ils ne sont pas à la maison. Et vous, vous avez toujours vécu avec votre maman?
Oui, oui.
Vous avez maintenu un lien tout le temps avec elle ou à un moment donné, vous avez été séparés?
On a été séparés quand presque j'avais 10 ans et tout. Et quand j'avais 17 ans, je pense, je suis revenue.
Ah oui, donc toute le début de l'adolescence, vous l'avez passé loin de la maison, dans de la famille. Donc en fait, elle vous a redécouverte à 17 ans en jeune fille. Elle a quitté une petite fille et elle a retrouvé une jeune fille.
Oui, carrément. Et quand je fais quelque chose, elle me dit « Fais attention à ne pas entacher la réputation de la famille », des trucs comme ça.
Mais ça, vous savez que tous les parents le disent aux enfants. Non?
C'est trop compliqué, je ne peux pas sortir à certaines heures de la nuit, je dois rester, je dois me déconnecter à certaines heures aussi, c'est vraiment trop dur en fait.
C'est pénible. Et du coup, maintenant, au niveau des projets d'études, vous en êtes où?
Oui, je voulais aller à Dakar, rester dans les centres universitaires, avoir une chambre à l'université, mais elle n'accepte pas, elle veut que je rentre chez mon oncle à chaque fois.
C'est pas pour des raisons financières?
Non, non, pas du tout.
Non. Vous avez l'impression qu'elle veut vous mettre sous surveillance?
Carrément. J'ai l'impression qu'elle me couvre, en fait. C'est trop dur.
C'est trop dur. Alors, le sentiment, on entend à travers ce témoignage très, très clair et très édifiant de Khadija. Elle a le sentiment d'être traitée comme une petite fille. Et c'est vrai, hein, Koro Kamara, que c'est pas simple. Quand on est une jeune adulte, on a 20 ans, on a des projets. On a réussi puisqu'on a eu son bac quand même. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez fréquemment?
Oui, assez. Et puis du coup, effectivement, tant que les parents seront toujours là, vivants, on sera toujours leurs enfants. Peu importe, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication et de confiance entre les deux. Donc du coup, là, effectivement, il va falloir transformer ce conflit en relation de confiance. C'est à Khadija de faire ses preuves auprès de sa mère pour que voilà la rassurer, et puis du coup c'est dommage parce qu'elle a un projet universitaire et du coup bon, peut-être trouver un compromis. Voilà, je fais mes études, mais oui, d'accord, je vais rentrer chez tonton et ne pas avoir cette chambre, enfin voilà. Essayer vraiment de trouver un terrain d'entente, c'est important.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui pourrait servir d'intermédiaire, Khadija?
Bah mon frère, mais lui il est toujours d'accord avec ma mère et tout, et je trouve.
Adja Idriss Saba, vous vouliez intervenir, je pense que vous avez votre mot à dire.
Si, oui, parce que le cas de Khadija, c'est le cas de, je vais dire, des millions de jeunes filles qui sortent et qui ont le bac et qui ont envie de s'épanouir, d'avoir leur espace. Et moi, j'ai envie de dire que peut-être que les parents, la mère peut-être de Khadija, l'a bien compris et a envie de l'accompagner, mais malheureusement, elle a peur des jugements d'autrui. Parce que vous savez, quand on est jeune fille, quand on nous dit la jeune fille, elle habite seule. Elle vit seule dans une chambre, elle va à l'université, elle est épanouie, la réputation et donc le jugement d'autrui, même si elle sait que c'est... Elle a confiance à son enfant, mais les autres dans l'entourage, dans le quartier, ils vont dire « Mais toi, tu as laissé ta fille dans ces conditions-là, elle fait pas son devoir de parent. »
Oui, mais ce qu'elle expliquait, cette jeune fille aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à en parler en dehors des moments compliqués parce que sa maman refuse. Comment est-ce qu'on trouve l'occasion? On va pas aller boire un café entre mère et fille, peut-être que ça se fait pas vraiment. Comment on fait pour se retrouver et en discuter tranquillement?
Sa maman sait déjà en fait ce qu'elle veut. Et sa maman refuse qu'il y ait une discussion jusqu'à ce qu'elle ait le dernier mot parce qu'elle sait que sa fille a raison. et si normalement elle a confiance en elle. Mais malheureusement, là où le bas blesse, il faut qu'il y ait des gens, justement à l'entourage, qui puissent convaincre sa maman que c'est pas une mauvaise idée, qu'il y a des exemples aujourd'hui de jeunes filles qui sont épanouies, qui sont bien éduquées, parce que si elle a peur de l'éducation de sa fille, mais qui sont dans leur espace, qui ont leur propre espace. Donc c'est de ça, il faut qu'il y ait des exemples et que Khadija pourra montrer à sa mère dire oui, je pourrais être comme cette personne.
Et vraiment avoir des conseils concrets, hein, Khadija, c'est ce qu'elle demande aussi. Comment mieux communiquer avec ma mère? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Koro Camara?
Alors, moi, en tout cas, vous avez dit pourquoi pas aller boire un café avec sa mère. Se retrouver toutes les deux dans un endroit neutre.
Dans un endroit inhabituel.
Pourquoi pas? Et voilà, engager la discussion, mais il faut que Khadija fasse ses preuves, qu'elle la rassure. Qu'elle dise, voilà, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Pourquoi pas aussi faire intervenir aussi le frère. Mais apparemment, le frère est toujours aussi du côté de la maman. Mais là, vraiment, ça arrête déjà vraiment de montrer patte blanche. Voilà, de vraiment...
Ça veut dire aussi entrer dans le jeu de sa maman pour la rassurer absolument. Parce qu'on sent aussi que c'est peut-être aussi une maman qui a peur, tout simplement.
Oui, bien sûr, les parents, ils ont toujours des craintes par rapport à leurs enfants. Donc, effectivement...
Et quand on voit l'actualité, ils ont des raisons d'avoir des craintes aussi. Parce qu'il y a des jeunes filles à qui il arrive effectivement des problèmes.
Ouais.
Tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Il y a la réputation, il peut y avoir les voisins, les cousins,
c'est
etc.
Ça.
Mais il y a la réalité. C'est quoi votre sentiment, Khadija, sur ce qui vient d'être dit à la fois par Adja et par notre invité psychologue Koro Camara?
Bah, elles ont raison. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas quoi faire. Moi qui ai des projets de partir étudier à l'extérieur, je n'ose même pas le lui dire en fait.
Mais si vous disiez, maman, on va boire un thé à l'amande toutes les deux, manger une petite pâtisserie toutes les deux et on va parler à tête reposée, je ne vais pas me disputer avec toi, je voudrais juste te parler de mes rêves.
Aller dans son sens.
Aller dans le sens de votre maman en disant, et je suis consciente des risques, je suis consciente qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, mais je peux t'assurer que je vais faire en sorte de me protéger. Parce que c'est évident, si vous dites, je veux sortir cette nuit à 3h du matin, téléphoner à des garçons, etc., même s'il n'y a pas de crime là-dedans, la maman, elle va avoir peur, hein, c'est sûr, elle va se faire des idées. Alors que si vous allez à tête reposée, y aller doucement, lui présenter vos arguments.
Oui, je pense qu'elle va accepter. Mais bon, je sais pas, je suis pas sûre en fait.
Essayez, donnez-nous des nouvelles quand ça bouge, d'accord, Khadija?
Bien sûr.
Merci beaucoup pour votre appel. On va prendre d'autres questions, de témoignages. Ce sera dans quelques instants, juste après ce titre d'Oxalde Kulosa sur RFI. Yeah, 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 oh, oh, no.
So many reasons why I want you for you, my love. Now you want to retire with my love. See all the little things you do, they make me no. This distance is taking a hold of me for sure. Maybe come. Be not this kind of things where they make man see ya. And me, I understand. Say your dad no like me. See me, I won't make you know. Say me there for you, cara. And if not, the price be that. I feel like to see ya. I never traded you for nothing.
This love
will make me the jack man shit.
Without you, I don't break to love.
Without you.
I'm a good girl, baby. What's up, bingo? I'm a watch, make me dance. I'm a girl, I wanna make you. Baby, I feel like make you. Oh, baby, oh, no.
I'm a baby.
Priorité santé sur RFI, émission Jeunes auditeurs, savoir s'affirmer pour défendre ses convictions auprès de son entourage, mener à bien ses projets, ses idées, persuasion, confiance en soi. Nous sommes toujours avec Adja Idrissaba, étudiante et activiste féministe, Koro Camara, psychologue, clinicienne, psychothérapeute en Seine-Saint-Denis. Et on part maintenant pour le Togo.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Pour vous retrouver, Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour Ophélie.
Alors, c'est Caroline à l'appareil. Ophélie, c'était pour préparer l'émission, mais elle est bien là. Elle est juste dans le bureau, pas en studio. Emmanuel, 25 ans. Et vous avez, Emmanuel, et c'est rare parce que là, vous allez vraiment nous parler de votre passion, un métier qui vous tient à cœur. Expliquez-nous ce que vous faites, Emmanuel.
En réalité, je suis réalisateur, cinéaste, réalisateur, metteur en scène. Et je suis dans le domaine du cinéma.
Et comment vous avez découvert ce goût du cinéma ?
En réalité, ce goût du cinéma, c'est depuis l'enfance, lorsque j'étais dans les bas âges, dans les basses classes, à l'église, je faisais les sketchs, les théâtres. Et c'est en ce moment que la vocation m'est arrivée. D'abord, je suis un peu doué dans la danse et surtout dans les mises en scène, dans l'incarnation des rôles. Et là, je me suis dit, bon, mon travail de futur, c'est la réalisation.
Donc, vous avez voulu passer de l'autre côté de la caméra, comme on dit. Et quand vous avez fait cette part de cette envie à votre maman, comment est-ce qu'elle a réagi ?
Ma maman n'a jamais été d'accord sur le fait que j'ai choisi de devenir un cinéaste. Parce que c'est ça qui a fait que j'ai pris un nom dans la famille, le plus têtu de la famille. Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que lui, l'autre voulait que je devienne en tout cas un infirmier de formation. Donc du coup, c'est un conflit qui est resté entre nous jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est plus là, mais je suis sûr que quand même, arrivé à un moment donné, j'ai su à la convaincre par mes efforts personnels, à travers les réalisations que j'ai pu faire, mes films que j'ai fait sortir, et les sorties de médias que j'ai eu à faire. Mais au fin fond d'elle, je n'ai pas pu la convaincre réellement, mais j'ai donné au moins des preuves que vraiment que c'était ma vocation et que je dois m'en sortir avec ce métier.
Vous n'avez pas changé d'objectif. Est-ce que ça veut dire que pendant toutes les années, parce que maintenant vous avez plutôt bien réussi, est-ce que ça veut dire que sur le chemin, vous n'en parliez plus du tout, c'était silence complet, secret, ou alors à l'inverse, c'était plutôt des disputes ou des conflits, des froissements ?
Arrivé à un moment donné, en fait, lorsque le conflit a commencé, parce que elle voulait que je devienne en fait un infirmier, mais j'ai dû garder le silence. Et ce qui a fait que moi, avec elle, ça n'allait pas bien en termes de relation entre maman et son fils. Mais cela ne m'empêchait pas d'aller vers elle pour en tout cas la parler, la dire des choses. Tant que ma maman passe.
C'était pas la rupture, vous gardiez le lien quand même, mère-fils, vous n'étiez pas fâché, c'est ça ?
Non, je ne suis pas fâché parce que je savais que, en tout cas, devenir infirmier aussi, c'est un travail et que c'est ce qu'elle aimerait que je devienne. Mais moi, j'avais ma passion parce que j'avais mes propres passions et mes rêves à moi. Donc, ce n'est pas, en tout cas, malgré que je sens, il y a une tension qui était entre moi et elle. Mais ce n'est pas un souci en tant que tel.
Et aujourd'hui, vous avez fait votre chemin, vous avez fait, comme on dit, votre trou. Comment elle a réagi quand elle a vu que ça marchait plutôt bien pour vous ?
Non, elle m'a félicité. Elle m'a dit, mais bon, mon fils, malgré que je t'ai dit de devenir ceci, mais tu as choisi être ceci. Donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas les moyens financiers pour essayer de t'accompagner avec ça, mais... je crois que ça peut aller parce que vu les écrits et les articles sur ma personne sur Google, et un jour j'étais à la télévision sur un plateau et il y a un ami d'elle qui l'a appelé, dit oh, j'ai vu ton fils à la télévision, le jour-là elle m'appelle, elle m'a félicité, donc je me suis dit bon.
Vous avez le sentiment, Emmanuel, excusez-moi, que finalement elle a fini par être fière de vous ?
Pardon ?
Elle a fini par être fière de vous, votre maman ?
Oui, elle a fini par être fière, mais pas totalement fière, parce qu'avant d'être fière de quelque chose, il faut avoir, en tout cas, bénéficier de la chose, parce que Le temps qu'elle a commencé par être fière de moi, c'est en ce moment qu'elle est tombée malade. Mm. Et suite à ça, elle a perdu sa vie dans la maladie.
Donc aujourd'hui, votre maman est décédée. Et vous auriez aimé avoir plus de temps avec elle pour lui prouver encore toutes les qualités de ce choix.
C'est ça.
Adja Idrissa Ba, on entend Emmanuel. Il a cru en son rêve, il n'a pas renoncé, mais c'était quand même un pari risqué.
Mais finalement, c'est bien d'entendre qu'à la fin, qu'il avait reçu la bénédiction de sa maman. Mmh. Parce que souvent, il y a certains parents qui se rétractent, même s'ils voient que tu as réussi et que malgré que tu n'as pas suivi ce qu'eux, ils t'ont conseillé. Mais s'il a montré justement ses preuves et qu'elle a reçu justement des félicitations de l'entourage. Donc cela seulement la rassure. Et vu qu'elle a été appelée au téléphone par une de ses connaissances et tout, je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui que nous, les jeunes, on a besoin. Peut-être qu'avec les parents, si eux, ils ne comprennent pas, lorsqu'il y a un avis extérieur sur nous, peut-être que ça leur permettra de reprendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, l'avis de l'entourage et le succès d'Emmanuel a permis à maman de l'accorder sa bénédiction.
Je pense c'est quelque chose d'important. Koro Camara, au final, il a eu l'approbation de sa mère, son projet aboutit. Ce mot de fierté, c'est aussi quelque chose de très important pour des enfants quand, finalement, ils rendent fiers leurs parents.
C'est ça. Fierté pour soi et fierté pour la famille aussi. Parce qu'on a beaucoup aussi le camp des ratons de la famille, des amis de la famille. Et donc, du coup, pour moi, en tout cas, bravo à lui. Parce qu'il a eu la bénédiction de sa maman et c'est important, en tout cas, qu'il puisse continuer dans son art.
Et on a aussi autre chose qui est important dans ce que nous a raconté Emmanuel, c'est la dimension de genre. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ça peut vraiment jouer un rôle, Koro Camara, sans tomber dans les stéréotypes. J'entends par là, on va peut-être laisser les garçons dans certains milieux plus mettre de leur destin par rapport aux filles. C'est une réalité.
C'est une réalité, mais c'est là aussi le thème aussi du sujet aujourd'hui, s'imposer. Donc nous aussi, les femmes aussi, on doit aussi s'imposer, peu importe aussi le domaine, peu importe la question, voilà.
Alors, Adja Idrissa Ba, je suis certaine que vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Est-ce que vous avez vu certains de vos amis garçons à qui les parents ont dit « vas-y, lance-toi » exactement la même demande dans le même milieu pour des filles où on a dit « c'est pas pour toi, ma fille ».
Mais bien sûr, ça c'est le quotidien en fait des jeunes filles et garçons qui ont envie qui choisissent leur futur métier après le bac. Mais il faut quand même rappeler aujourd'hui les choses sont en train de changer petit à petit avec peut-être les réseaux sociaux et les exemples de réussite que nous avons. Et malheureusement, les parents ils choisissent des métiers, enfin il y a des métiers stéréotypés femmes, jeunes filles et les métiers qui sont stéréotypés pour les hommes. Mais je pense qu'il faut il faut continuer à sensibiliser encore davantage pour que les parents puissent accepter que les garçons aussi puissent faire des métiers de femmes et que les femmes, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mmh. En fait, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu avant-hier sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai vu, c'était un statut, il y a les jeunes qui ont beaucoup partagé, ils ont dit, en Guinée, en Afrique, en Guinée, on étudie pour nos parents. Ça, c'est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas, on n'étudie pas pour soi, mais on étudie pour juste se débarrasser et rendre fiers les parents, mais nous, on n'est pas bien dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est extrêmement grave.
Ouais. Et on ne s'épanouit pas après dans son métier, c'est important.
Koro Camara.
J'étais psychologue de l'éducation nationale avant d'être au SAMS. Mm. Et donc, du coup, c'est important que l'enfant soit maître aussi de son destin, de son orientation. Mm. Si on choisit un métier en dépit ou parce que le parent veut, l'enfant ne sera jamais épanoui dans son métier plus tard.
Et ça va sur le long terme. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour son témoignage. On peut avoir d'autres cas comme le manque d'écoute au sein d'un couple, ne pas se faire entendre. Avec ce témoignage maintenant de Candy, elle nous a appelé du Canada sur le répondeur de Priorité Santé. Ne pas confondre amour et vulnérabilité.
Bonjour, je m'appelle Candy, j'ai 22 ans. Je suis camerounaise, je vis au Canada et je suis étudiante en soins infirmiers. En fait, si je vous fais cette note vocale, c'est pour vous parler de ma petite histoire avec mon ex. Comme on dit, c'était une relation assez toxique. On a commencé comment je venais de sortir d'une relation qui m'avait beaucoup brisée. Et il était là au bon moment. Au début, c'était bien. On s'entendait bien. Il partageait en fait les mêmes valeurs que moi. Le problème c'était que moi, je voyais qu'il ne s'investissait pas. Moi, je faisais le maximum. À cause de cela, j'ai commis beaucoup d'erreurs que je regrette. Je l'ai blessé, il m'a blessé. Je suis très peu sûre de moi, alors pour me rassurer, j'ai déjà besoin que quelqu'un puisse m'aimer avant que moi je ne m'aime. Avec cet homme, on a rompu parce qu'on ne s'entendait pas vraiment sur certaines choses. Il n'avait vraiment plus de respect. J'étais devenue son obsession, son trophée. Il faisait toujours l'effort de me promettre ciel et terre. Et moi, comme j'étais amoureuse, il pouvait me mentir sur une chose 15 fois, je vais le croire 15 fois. Et moi, j'ai réalisé que je valais beaucoup mieux quand j'ai quitté le pays. Oui, parce qu'avant, j'habitais au Cameroun, j'ai quitté le pays. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me débrouiller seule. Et je me sens bien. Merci.
Apprendre l'indépendance, Koro Camara, parce qu'on entend avec ce témoignage de Candy qu'elle avait un petit peu trop tendance à s'oublier oui. lorsqu'elle était amoureuse.
Oui.
S'effacer.
Ouais. Et moi, en tout cas, ce que je peux préconiser, c'est justement le contraire. Apprendre à s'aimer soi-même et ensuite, après, apprendre aussi à aimer aussi les autres. Donc là, du coup, effectivement, on sent qu'il y avait un manque de confiance en elle. Elle était dans une relation qui ne la valorisait pas, une relation assez toxique. Et donc, du coup, là... Elle a entrepris en tout cas des choses qui, au jour d'aujourd'hui, lui permettent de se sentir mieux, d'être à sa place et de s'aimer aussi. C'est important de s'aimer.
Se poser des limites pour avoir une relation qui corresponde à ce qu'on est, à Jaïdris Abba, c'est pas simplement une question de génération. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, relation parent-enfant. Là, on peut dire que ça se pose aussi dans le couple, ça se pose aussi avec les amis, ceux qui veulent imposer de sortir, d'exclure telle personne, de fréquenter telle personne, d'avoir telle idée. Il faut aussi savoir s'imposer avec les personnes de notre âge.
Mais évidemment, parce que c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est depuis déjà même, je vais dire, l'école. Parce que si tu apprends à t'imposer et que malheureusement, s'il y a, entre ta relation avec tes parents, ça se passe pas bien, peut-être que tu peux trouver d'autres espaces où tu peux vraiment t'imposer, même si c'est pas très facile parce que ça s'apprend d'abord dans la famille et puis après à l'école et puis plus tard avec ton petit ami ou ton conjoint. Mais par rapport au cas de cette jeune fille, de Candy, moi je pense qu'elle était dans une relation toxique et juste comme l'a dit Koro, je pense que c'est bien d'abord de s'aimer soi-même. Et il y a certains hommes, ils profitent en fait de cette innocence que nous avons, de cette innocence et du fait que nous n'ayons pas confiance en nous et qu'ils sont toujours là pour nous remettre en confiance, c'est eux en fait qui nous soulagent dans nos douleurs. Et donc, c'est-à-dire qu'ils se prennent déjà comme pour des remèdes indispensables, en fait, à notre survie. Alors que non, c'est toi qui es indispensable à toi-même, en fait. Et il ne faut jamais compter sur une personne, quel que soit l'amour que tu as pour la personne. C'est-à-dire, tu es le maître de toi-même.
L'indépendance avant tout. On va partir maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
Et on retrouve Charlotte en ligne.
Bonjour Caroline.
Bonjour Charlotte. Alors c'est vrai que depuis l'émission, on conseille aux auditrices, aux auditeurs de parler à tête reposée. Et vous en avez fait l'expérience, Charlotte, parce que très longtemps dans la famille, vous avez 27 ans, ça a été plutôt compliqué avec votre papa. Racontez-nous.
En fait, ça a toujours été compliqué avec lui. Vous voyez, mon adolescence a été très difficile parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Chaque fois qu'on se parlait, c'était pour des disputes. Et moi, je trouvais qu'il me faisait trop de reproches. Alors qu'à l'école, j'avais les meilleurs résultats. J'avais toujours des tableaux d'honneur. J'ai eu le bac avec la mention. Le BTS aussi, pareil. Mais il était trop dur avec moi. Je trouvais même qu'il ne m'aimait pas, en fait. Je trouvais qu'il préférait mon frère à moi et tout. Après,
excusez-moi, Charlotte, vraiment... il y avait moins de disputes avec les autres ?
Non, justement.
Il n'y avait pas de dispute avec les autres ?
Non.
C'était que sur vous que ça se concentrait ?
Que sur moi.
Et qu'est-ce qui a changé les choses ?
Mais justement, dernièrement, j'ai commencé à travailler. Enfin, à 23 ans, j'ai commencé à travailler et j'ai reçu quelqu'un à la maison. Vous voyez, un soir, un bon ami, on était assis devant la maison, on discutait et tout. Et
ayant su que je discutais avec un homme devant la maison, il a fait des histoires au point où même le voisinage m'entendait.
Attention, parce que votre, la ligne téléphonique se dégrade. Restez bien près de l'appareil quand vous racontez. Donc, vous étiez devant la maison avec un ami. Et là, ça a été le scandale, on va dire.
Le scandale. Il s'est mis à me crier dessus. Il a commencé à bavarder, à m'insulter. Mmh. J'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pleuré. Et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Mmh. Je me suis réveillée. Je lui ai dit, je veux te parler. Je l'ai fait asseoir et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, je ne suis plus un enfant. Mmh. J'ai besoin que tu me donnes un
peu. Charlotte, excusez-moi parce que la ligne n'est pas très bonne. À ce moment-là, vous avez réussi à lui expliquer les choses dans le calme. Où est-ce que vous avez trouvé cette force pour ne pas justement dire que vous étiez révoltée, en colère, crier? Comment vous avez trouvé ce calme?
Je pense que c'est parce que je m'avais vraiment marre.
Ouais.
Je m'avais vraiment, vraiment marre.
Il avait dépassé les limites.
Je pense, oui. Il était arrivé à ma limite. On pouvait faire une semaine dans la maison, on ne se voit, on ne se parle pas. Mm. Parce que quand il rentre, je m'entraîne dans la chambre, je sors après qu'il soit sorti et tout. Mm. C'était difficile, ça devenait pesant. Mm.
Et de ce jour-là, les choses ont changé?
Oui, parce qu'il était étonné de me voir lui parler comme ça. En fait. Mm. Il était surpris, il m'a fait asseoir, il m'a dit, c'est pas contre moi, c'est parce que les dehors, comme on dit, est dangereux. Il m'a même donné des conseils, il m'a dit, j'étais étonnée. J'ai dit, ah bon, donc on peut se parler comme ça.
Et donc ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, ça va mieux entre vous, beaucoup mieux?
Ça va extrêmement mieux. Mmh. Je sais pas, aujourd'hui, je vis chez moi, mais je ne sais pas faire une semaine, 2 semaines sans l'appeler, sans passer le voir. Mmh. Mmh. Et tout, ça va beaucoup mieux.
Est-ce que vous avez l'impression, Charlotte, qu'il a compris finalement que vous n'étiez plus une petite fille et que vous étiez devenue une jeune femme?
Je pense, oui, je pense. Mmh. Je pense que la manière dont je lui ai parlé, lui a fait prendre conscience en fait qu'il pouvait lâcher un peu la grappe. Parce que
mais pourquoi vous n'aviez finalement plus peur de lui? On sent qu'il y avait du respect. Hein. Vous avez dit que vous n'avez pas crié, oui. Vous n'avez pas du tout vociféré. Par contre, vous avez su vous imposer. Pourquoi vous n'aviez plus peur de lui?
Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette force-là. Je ne sais pas d'où j'ai tiré.
Non, parce que c'est ce que je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui vous écoutent se disent, mais comment on fait justement quand on a peur de la réaction des parents parce qu'on se dit, oh, on risque d'être mis à la porte, on risque d'avoir des insultes, on risque d'être maudit, de la malédiction, comme disait tout à l'heure Adja. Et vous avez réussi. C'est un petit peu le cas concret. Je me tourne vers notre psychologue Koro Camara. Elle a réussi finalement là où beaucoup doutent et on entend justement que ce courage, il a payé.
Ouais, tout à fait. Elle a été très courageuse et puis du coup, elle a crevé l'abcès parce qu'il y avait des non-dits entre elle et son père, une relation assez, assez compliquée, spéciale. Elle a fini en fait par adoucir la problématique, arrondir les angles, lui parler comme une adulte. Et je pense qu'à ce moment-là, comme elle a dit, il ne m'a plus vue comme une petite fille, mais comme une adulte. Mm-mm. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, les relations sont beaucoup mieux. Bravo à vous, en tout cas.
Et en tout cas, déjà, on peut dire qu'elle a eu de la chance aussi de tomber sur ce père qui lui fait confiance. Bah, c'est pas le cas de toutes les filles. Hein.
Bien sûr. Donc, quand je l'entends parler, là, c'est genre, elle a été poussée jusqu'au mur. Là, elle n'avait plus le choix que de sortir ce qu'elle avait en elle. Donc, moi, je pense qu'elle avait toujours été obéissante avec son père. Et le seul fait, en fait, qu'il y ait eu cette goutte d'eau dans l'océan, c'est le fait qu'elle ait pu oser dire à son père la vérité. Parce qu'elle n'a rien fait de mal, en fait.
Oui.
Elle n'a rien fait de mal, c'est juste que le papa, il était très dur.
Ouais.
Mais à un certain moment donné... Mmh. Vous savez, je vais vous donner
l'irrespect a changé de camp, hein.
Je vous donne une formule. De la séquestration, nous partons à la révolte. Et de la révolte, c'est les vices.
Explication.
Explication,
s'il vous plaît.
Explication, j'ai un ami, on était ensemble au Parlement des enfants. Hyper intelligent qu'il était. Séquestré par sa grand-mère, parce que tout simplement, il avait que les bouquins, le Larousse, il avait presque maîtrisé tout le Larousse. Mmh. Tous les mots, il les retenait, il passait tous les concours. Mais en ce moment, il était très soumis à sa grand-mère, il n'a pas vécu avec ses parents. Et le fait qu'il a eu accès à certains, c'est-à-dire il a été séquestré, et il s'est révolté par après, et aujourd'hui, il est dans les vices. C'est un enfant qui était hyper intelligent avec qui j'ai passé.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'on interdit qu'on va aller.
Qu'on va aller vers la réussite.
Absolument.
Attention, attention, parce que plus vous séquestrez, plus vous rendez la vie dure à l'enfant, vous risquez de le perdre à jamais. Ouais.
L'abîmer, le blesser. On a un autre appel de Lomé avec Isaac. Isaac, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Dernier auditeur du jour avec nous en direct, Isaac, 27 ans. Vous, c'était là aussi avec votre père que vous aviez du mal à imposer vos projets. Racontez-nous, s'il vous plaît, Isaac.
Bon, ben, ça avait commencé depuis l'âge de 12 ans. Mmh. J'avais choisi de faire la catéchèse et de faire aussi les cours de classe. Mais ça coïncidait souvent avec le programme académique. Mmh. Ben, le papa disait, mais je ne pouvais pas supporter d'être sur les deux fronts. Mmh. Pour lui, ce n'était pas possible.
Il vous demandait d'abandonner l'un des deux, c'est ça?
Oui, et prioritairement la catéchèse.
Et comment est-ce que vous l'avez convaincu?
Bon, ben, en fait, je lui ai fait comprendre que je voulais vraiment faire la catéchèse, mmh. avec l'appui de la maman. Mmh. Une discussion, ça n'a pas été houleux quand même.
Ça veut dire quand même que vous aviez votre mère comme partenaire, parce que depuis le début de l'émission, on a les auditeurs qui ont soit une relation avec le père, soit avec la mère. On entend peu les parents. Donc là, votre maman, elle était de votre côté, c'est ça?
Oui, effectivement, pas tellement, mais bon, l'avantage, c'était que le papa, il est militaire, bon, il n'est pas permanemment à la maison. Mmh. Donc, je peux aussi rien faire sans l'avertir. Mmh. Et bon, quand on lui parle aussi, il comprend.
Il a compris, donc, finalement. Vous avez réussi à le convaincre. Est-ce que vous avez une technique, une méthode particulière pour le convaincre?
Au fait, lui, il s'attendait à ce que ça n'aille pas. Il se voyait si petit pour pouvoir associer deux choses en même temps. Mmh.
Ça veut dire que c'est en réussissant que vous l'avez convaincu, c'est ça?
Voilà, j'ai pu m'imposer en faisant mes preuves.
En faisant
et
vos preuves.
Aussi, ouais.
Ça veut dire que vous aviez non. aussi confiance en vous-même, Isaac?
Oui, j'étais sûr que je pouvais le faire.
Et ça, c'est important, Koro Camara, quand on s'est fixé un but, garder la confiance, et c'est ce qu'a réussi à faire Isaac.
C'est ça, tout à fait. Mais du coup, c'est ça aussi qui fait que j'ai confiance en moi. Donc voilà, je vais prouver aux autres aussi qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Et si ça marche, c'est une réussite. Et donc du coup, l'entourage change aussi de point de vue aussi sur le projet, sur la personne. Et j'avais une question, quand il apprend à maîtriser ce qu'il doit faire, qu'est-ce que ça veut, comment vous y prenez du coup ça m'a interpellée.
Pour réussir justement dans vos projets, comment vous réussissez à gérer tout en même temps?
En fait, c'était une question d'organisation.
Une question d'organisation.
Déjà, tout petit, j'avais le sens d'une planification parfaite.
Mmh. Bon, vous avez peut-être hérité de cette organisation militaire de votre papa. En tout cas, ce qu'on entend à Jaïd Rissaba, il nous reste une minute environ. C'est vrai, Isaac a tenu tête, mais en même temps, il y avait du travail, il a fait ses preuves. Il était d'abord exigeant envers lui-même.
Oui, en deux mots, savoir s'imposer, c'est d'avoir confiance en soi et d'aimer ce qu'on fait.
Mais non plus pas partir non plus à l'aveugle comme ça, justement. À l'aventure. Derrière, il y a du travail, il y a une organisation, justement. Ça ne s'improvise pas.
Oui.
En tout cas, sa technique a plutôt bien réussi, hein. Donc bravo.
C'est ce qu'on entend, puisqu'il a réussi sa formation et en même temps, il a pu poursuivre son enseignement religieux et aller justement dans le sens de ses convictions. On remercie cet auditeur, Isaac. On lui dit très, très bonne journée au Togo. Et on vous remercie infiniment toutes les deux de vous être rendues disponibles pour notre émission. Koro Camara, Jaïd Rissaba,
merci
d'avoir été ici avec nous en direct aujourd'hui. Et à très, très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique et la réalise. C'est Oussama Ké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, nous allons parler du paludisme. Où en sont les programmes de vaccination contre le palu? Le financement de la lutte est-il à la hauteur du défi sanitaire? Bien sûr, comment améliorer la prévention? Nos invités vous répondent en direct dès 9h10 temps universel. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'est Priorité Santé avec le groupe Sounou où le client est au centre de tout. Profitez de la Sounou attitude. Bonne année.